Bonjour et bienvenue à tous. En préparant ce message, voici ce qui est venu sur mon cœur. Si tu pouvais voir Jésus, maintenant, en chair et en os, s'il franchissait cette porte, changerais-tu ta manière de le louer? Changerais-tu ta manière de l'adorer, de prier, d'élever son nom? Pourtant, il siège au milieu de nous, au milieu de ses enfants, maintenant. On vous invite vraiment, ce matin, à ouvrir vos cœurs, à le réaliser et à le vivre. Adorons-le, élevons-le comme il se doit. Et si tu te poses des questions, maintenant, regarde, ressens. Regarde l'Église qui vit, qui le loue, qui l'adore, parce qu'il est là aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce sera un jour nouveau pour toi.
Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. C'est notre péché. Il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, 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 oh. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur. Proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider nos pas. Pour nous donner la liberté ici-bas. Oh, célébrons ses louanges. Accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Célébrons, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Tous les peuples, les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité.
Acclamons-le.
Jésus, le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, oh, célébrons ses louanges. Accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous.
On veut continuer de le bénir, de le proclamer, de le louer. Alléluia. Que je vis, car le ressuscité vit en moi.
Je
danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit.
Pour la croix, merci pour ton salut, Jésus. Alléluia.
Tu as porté ma croix, tu as tout donné. Que je sois libérée. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Dis ton nom. Ton nom, digne ton nom, cher.
Tu es digne d'être élevé au-dessus de toute nation. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Léa nous a dit ce matin, et si le Seigneur était parmi nous, est-ce qu'on l'adorerait de la même manière? Et si véritablement le Seigneur était présent là, maintenant là, si on le voyait, est-ce qu'on l'adorerait de la même manière? Jésus, j'ai envie de t'adorer parce que je sais que tu es Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, tu mérites toute la gloire, tu mérites qu'on t'adore, tu mérites qu'on t'exalte. C'est pour ça que nous voulons encore appeler ta présence en ce lieu ce matin. Nous voulons encore accueillir ta présence. Nous voulons dire que cet air que nous respirons, c'est ta présence. Nous voulons dire que cet air que nous respirons, c'est ta présence. Nous voulons encore accueillir ta présence.
sans toi.
Soumettre une pensée, on peut rester debout, on va continuer à louer, on va proclamer encore Jésus, on peut juste rester debout. Je voudrais soumettre une pensée à la communauté, à l'église. Alors qu'on dit dans la louange, cette pensée venait de dire, il y a quelqu'un qui est en train de douter que ses chaînes sont pas tombées. Et Seigneur me disait, mais moi j'entends le Seigneur, les chaînes qui tombent. Je sais que les chaînes elles tombent, que Jésus puisse te rassurer ce matin, c'est son cœur de te dire, tu pries pour que tu puisses être dégagé de telle situation, de telle chose qui t'empêche d'approcher de Jésus, et t'es dans le doute de dire, mais est-ce que Jésus peut le faire vraiment? Est-ce que Jésus peut le réaliser vraiment? Et il y a vraiment cette pensée qui était forte que je vous soumets pour quelqu'un, et je t'appelle au discernement par rapport à ça, si tu as fait cette démarche évidemment de foi, de repentance. Mais Jésus te dit, mais écoute, les chaînes, elles sont tombées. Les choses anciennes, là, sont passées et tout est devenu nouveau. Alors, doute pas. Et pendant ce temps de louange, pendant qu'on va encore louer, exerce ton oreille de disciple. Parce que nous, on essaye, la Bible dit qu'on veut courir après des choses qui nous font du bien à l'oreille. Mais là, c'est une bonne chose que le Saint-Esprit t'aide à discerner et à te réjouir intérieurement de dire, mais oui, j'entends, je le vis, j'ai la liberté, j'ai l'espoir, j'ai l'espérance. Ces chaînes qui m'emprisonnaient, et tu sais de quoi il est question. C'est ta vie avec Dieu. Pas besoin de développer des choses ici. Mais juste alors qu'on va continuer à louer, que le Saint-Esprit t'aide à entendre concrètement dans ton esprit, dans ton âme, ces chaînes qui ont été seulement, non seulement brisées, mais qui sont tombées. Et alors que tu entends ça, que tu es conscient, que tu as une conviction intérieure de dire « Mais oui, Jésus pardonne vraiment, Jésus libère vraiment », et bien là, tu vas louer peut-être comme jamais en réalisant que Jésus est présent, même si c'est plus de chair et d'os là. Ton âme va être réveillée, ton esprit va être réveillé, tu vas dire, Jésus, il est là. Et c'est le Dieu qui brise encore les chaînes aujourd'hui. Amen. Oh, donnons une acclamation à Jésus ce matin, une forte acclamation, une intense acclamation. Il le mérite, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Waouh! Que Dieu bénisse ces instants de communion dans la louange. Waouh, se rappeler que la terre, malgré tout ce qui s'y passe, est remplie de la gloire de Dieu, que Dieu œuvre, que Dieu sauve, que Dieu restaure encore, que Dieu relève, que Dieu agit. C'est tellement une bonne nouvelle. C'est tellement de l'espérance, de la foi et de l'amour. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Il n'y a pas d'autre mot. Que Dieu soit béni. Je suis très heureux d'être de retour après quelques semaines de congé en famille avec Magali et les enfants. Et voilà, merci pour chacune et chacun d'entre vous qui permettait que de semaine en semaine, on puisse voilà vivre des temps de célébration, on puisse vivre des temps de bénédiction ensemble. Si jamais on peut ramener le pupitre, ce serait top. Merci beaucoup. C'est la rentrée et j'entends plein de collégiens dire « Amen ». C'est la rentrée et j'entends plein d'enfants dire « Merci Jésus pour la rentrée !» Parce que je vais apprendre, parce que je vais apprendre encore le vivre ensemble, parce que je vais passer des super moments de révision avec papa et maman. Merci Seigneur, parce que papy et mamie peuvent enfin respirer. Oh, il y a eu un amen là, c'est incroyable. La rentrée. Pour certains, c'est un moment un peu d'angoisse. On se dit, oh là 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 là, il y a tellement de choses, il y a tout ça. Pour d'autres, c'est la joie. Et nous, on est heureux de pouvoir se dire encore ensemble, on va vivre une année scolaire avec le Seigneur, où le Seigneur va encore opérer miracle, prodige et grâce pour bénir encore plus loin les personnes qui le cherchent et même les personnes qui le cherchent pas. On est très heureux. Il y a plusieurs temps de rentrée qui vont se vivre à l'église. Donc, je vous demande de respirer un grand coup et de dire, waouh, à la fin de ces annonces, c'est trop bien tout ce qui se vit dans l'église. L'église est vivante. L'église est en mouvement. L'église est un organisme vivant. Donc, normalement, à la fin de ces annonces que je vais faire, toute l'église dira, amen. Comment redémarrer une année scolaire? Sans entrer tout de suite et être dans une dynamique de rentrée pour être solidaire envers celles et ceux qui souffrent. Et c'est pourquoi on veut démarrer septembre directement avec l'épicollecte. Vous savez, l'église de l'épi, les membres et les participants se mobilisent pour collecter des denrées et nous allons les remettre à notre association culturelle Enjeu qui vient en aide à des personnes qui passent par des saisons de vie où c'est difficile, où on a du mal parfois à rejoindre les deux bouts. Et la prochaine collecte aura lieu le dimanche 7 septembre. Donc pensez, vous avez les petits feuillets verts, vous les voyez, vous pouvez pas les louper dans le hall. Épicollecte, vous avez toutes les dates, vous avez la liste des denrées. Développons une mentalité solidaire, peut-être quand on va aller acheter quelque chose, de dire je prends une boîte de conserve en plus ou je regarde la liste et que on puisse fournir des colis de qualité à ceux qui en ont besoin. Et je pense qu'en faisant comme ça, le Seigneur peut que se réjouir qu'une église, elle fait sa rentrée comme cela. Amen. Amen. Donc l'épicollecte, le dimanche 7 septembre. La rentrée des seniors, des aînés, elle aura lieu pas le premier vendredi du mois, mais le vendredi 12 septembre. Ça aura lieu ici, au rez-de-chaussée bas, dans la salle polyvalente Aix-Jeunesse. J'invite toutes les personnes qui se sentent dans un âge mûr, dans une jeunesse d'expérience, qui aiment Jésus et qui se souviennent que tant qu'ils sont sur cette terre, Dieu les appelle encore. Et je vous invite à un temps de prière, tous les aînés. Un temps où on va se mettre autour du Seigneur, on va chercher sa volonté, chercher sa face. Comment être une génération de seniors en bénédiction autour de nous? Comment vivre des temps où on se rassemble entre aînés et seniors, où le Saint-Esprit est à l'œuvre et on peut bénir efficacement, bénir autour de nous? On n'organisera pas de programme, juste des enfants de Dieu qui ont une expérience depuis un peu plus longtemps, qui se rassemblent dans un même lieu pour chercher la face de Dieu et pour être à l'écoute de Dieu, pour que chaque rencontre des seniors soit une occasion de grandir avec Jésus, de faire connaître Jésus et d'être une bénédiction pour l'Église et même au-delà. Donc j'invite tous les seniors, tous les aînés, tous les jeunes retraités et les retraités depuis un peu plus longtemps à cette rencontre qui aura lieu le vendredi 12 septembre. On est heureux aussi d'être une église multigénérationnelle. Et il y a une rentrée des 0-17 ans qui arrive. Et il y a les inscriptions qui sont ouvertes pour pouvoir inscrire vos enfants. La rentrée officielle aura lieu le 14 septembre par un grand jeu. OK ? Un grand jeu. Donc, inscrivez vos enfants, ça permet à nos bénévoles, à nos équipiers qui sont sur le terrain, qui vous servent, qui servent vos familles, de pouvoir au mieux s'organiser pour savoir combien on est, combien d'enfants de tel âge, pour qu'on puisse au mieux accueillir toute cette jeunesse, partager notre amour de Jésus avec eux, qu'ils puissent vivre aussi des temps forts les uns avec les autres. Donc rendez-vous le 14 septembre pour un grand jeu et en amont, inscrivez vos enfants. Il y a des tables dans le hall, il y a toute une équipe qui est là, prêt à vous accueillir, papa, maman, pour inscrire vos enfants. J'aimerais vous parler maintenant d'un nouveau projet qui s'appelle l'Apéro Start. Tout le monde a regardé à l'apéro, mais personne n'a regardé au Start. L'Apéro Start, c'est tout simplement la porte d'entrée pour celles et ceux qui souhaiteraient s'impliquer dans la vie de l'Église ou s'impliquer, exercer un ministère, un service au sein de la communauté et même au-delà. Ça va être un moment convivial autour d'un apéro, évidemment, mais surtout un temps inspirant. Un temps où on va prendre le temps de découvrir ensemble ce que signifie avoir un cœur de serviteur. À l'image de notre Jésus-Christ, notre Seigneur qui est roi et serviteur. Ça sera un temps aussi où on va vous présenter les différents services de l'Église. Il y a des dizaines de services qui permettent à l'Église d'être vivante et de bénir autour d'elle tellement de publics, tellement de populations, tellement de répondre à tellement de besoins. Ce sera l'occasion de vous présenter les équipes de l'Église et comment l'Église, elle vit concrètement la semaine, le week-end et comment concrètement on vit cette mission d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et surtout, ça sera l'occasion pendant cet apéro de pouvoir trouver sa place dans un parcours qui est clair, un parcours d'équipier, un parcours de serviteur qui est clair et qui va vous permettre, nous le croyons, de grandir et de servir avec les autres. Alors pourquoi START ? Non, on n'a pas utilisé un mot anglais, c'est un acronyme. Laissez-moi vous le représenter si tu peux le reprojeter, s'il te plaît. START, c'est S comme servir. C'est toujours le point de départ. Jésus a dit servez votre prochain, aimez votre prochain. T comme transmettre l'évangile, partager les valeurs de l'évangile, transmettre du savoir-faire qui peut même vous bénir au travail. Il y a des choses qu'on apprend en église, qu'on vit en église, qui sont une bénédiction même dans le travail, même dans la famille. A comme agir, une foi agissante. La foi, c'est une démonstration. Le R comme révéler. Servir, ça permet de révéler vos dons et vos talents, ce que Dieu a mis en vous. Dieu a mis en nous le vouloir et le faire. Et ça permet de révéler tout ça. Et enfin T, c'est comme transformer. Parce qu'on croit que le service pour Dieu nous transforme. Transforme notre cœur, transforme nos relations, transforme notre être entier. Et nous croyons que sans le service, il est très difficile d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. Donc cet apéro Start est pour toutes celles et ceux qui cette année vivent nos célébrations, nous ont rejoints depuis un peu de temps et veulent en savoir plus. Plus, c'est la porte d'entrée pour vous. Le prochain apéro, il a lieu le dimanche 21 septembre, de suite après la célébration, toujours au rez-de-chaussée bas, dans une salle qu'on appelle pour l'instant la salle Cafette. Et vous pouvez vous inscrire à la fin de cette célébration, tout de suite en sortant de la grande salle à votre droite, à l'espace vide église. On a besoin d'inscriptions pour savoir combien de personnes on est, parce qu'on veut faire de bonnes commandes, de bonnes quantités, pour éviter le gaspillage, parce qu'à Strasbourg, on n'aime pas le gaspillage. Vous êtes les bienvenus et cette porte, elle est ouverte pour vous à l'apéro Start. Toujours concernant la rentrée, certains, c'est la reprise professionnelle. Et on a une nouvelle saison, une nouvelle session d'un parcours à destination de tous les professionnels. Si tu peux le projeter, c'est C-Pro Actif. C-Pro Actif, c'est un parcours unique pour transformer votre travail en un ministère vivant, porteur de sens et porteur d'impact pour Dieu. C'est un parcours sur une année où on se rencontre, tu peux passer à la slide suivante, où on se rencontre ensemble dans un chemin de transformation. L'idée, quand on se rencontre, c'est de redonner du sens à notre vie professionnelle. Mieux servir Dieu là où il m'a placé, dans mon travail, dans mon engagement peut-être aussi associatif, avec mes dons et mes talents, mais aussi en partageant les défis que je peux avoir au travail et comment je peux être encouragé dans la prière au travers de tout cela. C'est aussi un moyen, un chemin pour... Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. Merci. Un chemin pour devenir sel et lumière dans mon environnement professionnel. Parce que notre premier ministère, là, les amis, c'est auprès de la famille, c'est au travail, c'est dans notre quartier. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'on a tous un ministère. Quelques témoignages de ceux qui ont déjà participé à ce parcours. Pascal qui nous dit que ce parcours a dopé sa foi. Ça l'a encouragé, ça l'a fait grandir. Laure, j'ai surtout apprécié l'ouverture d'esprit et la bienveillance entre nous. Fanny qui dit, c'était important d'avoir des outils et d'entendre des témoignages. Maintenant, j'ai mes écoutilles plus ouvertes et ça a eu un impact positif sur mon travail. Il y a un avant et un après ce programme pour ma vie professionnelle. Donc vous pouvez vous inscrire, dernière slide. Pour celles et ceux qui sont intéressés, on laisse un petit temps le QR code. Pour celles et ceux qui sont habitués, vous prenez votre portable, vous prenez le QR code, vous pouvez vous inscrire. Sinon, à la fin de cette célébration, à votre droite, toujours quand vous sortez, espace vie d'église, c'est là que ça se place, comme on dit en anglais, c'est the place to be, c'est l'endroit où être, pour pouvoir avoir toutes les informations sur l'église, pour pouvoir s'inscrire ou autre. C'est un groupe de 6-8 personnes, c'est 12 séances d'1h30, c'est en visio et c'est d'octobre à juin. Que Dieu bénisse toutes celles et ceux en activité qui travaillent afin qu'ils soient une lumière de bénédiction autour d'eux, parce qu'on sait que le travail, c'est un environnement particulier. Enfin, avec la rentrée, on a un temps d'unité, un temps où on va se fédérer ensemble avec toutes les églises de l'Entente. On a ici la grâce à Strasbourg de vivre une dynamique, une synergie d'églises au travers de l'Entente des églises protestantes évangéliques de Strasbourg, des dizaines d'églises qui se rassemblent au moins une fois par an pour un culte en commun. L'EPI connaît bien cela parce qu'on a accueilli pendant des années le culte en commun dans nos locaux. Et pour les 500 ans de la présence évangélique en Alsace, on se mobilise tous les évangéliques en partenariat avec le CNEF 67. Le CNEF 67, c'est le Conseil national des évangéliques de France. Le Conseil national des évangéliques de France représente 70% des évangéliques aussi en France. Nous en faisons partie, il y a d'autres églises qui en font partie. Donc on se mobilise en tant que CNEF 67 pour pouvoir vivre des temps de culte en commun. Et là, notre prochain culte en commun, c'est le samedi 4 octobre. Ça aura lieu au Palais de la Musique et des Congrès. Il y a un programme très dense, vraiment très très riche pour celles et ceux qui sont sensibles et qui veulent être dans la louange, ceux qui voudront vivre un culte avec tous les autres chrétiens dans l'unité. Il y aura de quoi se nourrir, des food trucks, il y aura différents ministères aussi pour celles et ceux qui veulent partager l'évangile dans du contact de rue. Il y a toute une équipe qui s'organise pour pouvoir aller dans les rues, inviter les gens pour les événements qui auront lieu là. Il y a plusieurs ministères à pourvoir aussi auprès des enfants. Donc si vous voulez donner un coup de main pour faire partie d'une équipe et de pouvoir soutenir cet événement, on attend des centaines et des centaines de personnes. On table sur, on est sur une présence de plus de 3000 personnes sur l'événement. Donc c'est le moment. Vous pouvez aussi aller directement sur le site de l'Entente. Vous tapez Entente des églises évangéliques, vous tombez sur le site, vous avez toutes les informations du programme. Vous pouvez aussi vous y inscrire parce que même si on est au Palais de la Musique et des Congrès, les places seront limitées. Donc il faut pouvoir aussi s'inscrire. Donc on a une table ressource aussi à l'espace vie d'église. Si vous avez des questions à poser pour s'inscrire ou autre, on s'y tiendra. L'information importante, c'est que comme on se mobilise avec les autres églises, on garde le samedi 4 octobre comme temps de culte. Donc nous n'aurons pas le culte le lendemain ici dans les locaux. On veut vraiment tout focaliser sur le samedi 4 octobre. Donc merci de ne pas oublier ce détail important. Toutes les informations dans le hall. Il y a des flyers, il y a plusieurs possibilités d'avoir ces informations et de vivre un temps vraiment de témoignage, d'unité d'une église évangélique unie à Strasbourg. Moi tout seul, j'ai une influence, j'ai un impact, mais avec vous, on a un plus grand impact et avec l'Entente, on a encore un plus fort impact. Et c'est comme ça qu'on croit qu'on peut aussi bénir Strasbourg. Je voudrais juste faire un gros coucou et remercier nos traducteurs et traductrices. Ils sont dans le coin là-bas, c'est la traduction en arménien, en russe, en anglais. Est-ce qu'on peut les remercier ? Imaginez-vous qu'ils ont à traduire des personnes comme nous. Alors moi, je parle encore doucement, mais Raymond Pierre, qui est un autre pasteur. Non, on salue Raymond Pierre qui est aussi en déplacement ce week-end. Jérôme est bien arrivé à Montpellier. Ça s'installe, l'implantation d'église suit son cours. Donc voilà, tout va bien pour eux aussi, on est très heureux. Est-ce que vous allez bien après ces annonces, c'est bon ? Qui est heureux d'avoir une église où il y a la vie comme ça ? Moi, je suis très heureux. Très heureux. L'église, c'est une communauté vivante, un organisme vivant. C'est très, très bon. Et on a aussi la grâce ce matin d'accueillir un ami. Un ami parce qu'on a servi Dieu ensemble, notamment dans la jeunesse, au travers d'un ministère qui s'appelle MOVE. MOVE, c'est le département des Assemblées de Dieu de France. C'est une famille d'églises dont laquelle nous faisons partie, qui exerce un ministère auprès des 0-25 ans. Et Christophe est co-directeur de l'organisation du congrès ECHO. Le congrès ECHO a lieu une fois tous les 3 ans, tu me reprends si je dis des bêtises, une fois tous les 3 ans au Zénith de Clermont-Ferrand, où 6000 ados et jeunes se rencontrent dans la présence de Dieu pendant environ 3 jours et sont au bénéfice du ministère du Saint-Esprit, du ministère de la prédication de la parole. Il y a des temps aussi pour eux de relations ou autres. Et Christophe a perdu quelques cheveux dans cette organisation-là parce que c'est une sacrée organisation. Mais il est tellement passionné, il est passionnant, on sert Dieu ensemble, on a une passion commune pour la pêche au carnassier. Il m'a dit de pas le dire, mais je le dis quand même, parce qu'ici à l'Épi, on aime les pasteurs pêcheurs d'hommes et pêcheurs de poissons aussi. Je rappelle à celles et ceux qui sont sensibles à ça, nous relâchons tous les poissons, nous pratiquons le no-kill. Aucun poisson n'a été abîmé pendant cet exercice sportif. Christophe est marié à Elisabeth, il a de la famille ici à l'Épi, et il est en vacances. Alors il est venu aussi prêter main forte à un ministère qui s'appelle Look Up Gaming. Michael Tiboula, membre du conseil d'administration de notre église et un des directeurs avec Jonathan Pirot, qui est là ce matin. Je voudrais juste prendre le temps de vous parler du ministère auprès des gamers. Si je fais un petit sondage, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre famille qui joue à des jeux vidéo? Faisons un sondage, levons la main, juste levons la main pour voir. Papi, mamie, est-ce que vous avez des petits-enfants qui jouent à des jeux vidéo, par exemple? Levez la main, les papis, mamie, les parents. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a des disciples de Jésus qui prient pour que Dieu les rencontre au travers du gaming. Qu'il y ait un espace sécurisé pour eux, pour qu'ils entendent l'évangile et qu'ils puissent faire aussi la part des choses dans ce ministère de l'écran qui est si sensible pour eux. Il y a tellement des choses aussi à prendre en considération. Et le ministère de Look Up Gaming, j'y crois à fond parce que j'ai vu Dieu agir au travers de gamers, de personnes qui jouaient. Il y a des personnes qui ont découvert l'évangile, la grâce de Dieu là. Et je voudrais juste qu'on puisse un instant juste encourager Michael et toute l'équipe. Je sais pas s'il y a des gens de Look Up Gaming. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, toute l'équipe de Look Up Gaming. Voilà, est-ce qu'on peut les encourager dans leur ministère, s'il vous plaît? Voilà. Merci à vous d'annoncer l'évangile dans ce milieu et de sensibiliser aux écrans parce que ça fait partie aussi de votre ministère, parce que vous ne dites pas oui, amen à tout, vous emmenez une vraie réflexion profonde avec l'évangile sur le ministère des écrans, sur le gaming. Il y a eu un événement qu'on a accueilli dans nos locaux ce matin et ça fait partie de toute cette dynamique de MOVE dont Christophe est aussi engagé et un des directeurs. Christophe est pasteur à Thonon-les-Bains et il compte bien y rester. Pour l'instant, ils servent avec Elisabeth, son épouse. Ils sont à fond. Ils veulent voir cette région être bénie, embrasée de l'amour de Jésus-Christ. Et c'est une grande joie ce matin pour nous de pouvoir l'accueillir. Est-ce qu'on peut vraiment bénir et accueillir comme il se doit notre frère Christophe Tagliamento? On va prier pour lui et on va être à son écoute aussi au niveau de la parole. Seigneur, merci pour Elisabeth, pour Christophe, pour les enfants, pour leur présence, pour ce temps aussi en famille, ce temps de ministère auprès de Look Up Gaming, ce temps aussi où Christophe va nous bénir au travers de la parole. En Église, on veut le bénir, les bénir, ce couple pastoral, le ministère qu'ils ont en famille avec l'Église de Thonon-les-Bains. Nous en profitons pour bénir toute l'Église de Thonon-les-Bains. Toute cette région qui a besoin, comme toutes les régions de France, de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Merci vraiment de nous encourager ce matin, de prendre soin de notre âme, de notre cœur au travers de ce message et qu'on puisse aller un petit peu plus loin encore ce matin. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Sois béni, Christophe.
Merci beaucoup. Merci Mathieu, merci à chacun d'entre vous. Je suis très content d'être avec vous ce matin encore pour ouvrir la parole du Seigneur, pour nous tenir sur ce que le Seigneur, lui, veut nous enseigner encore ce matin. Ce matin, le titre de mon message va être très simple. Être vaincu pour devenir vainqueur. Et pour comprendre ce message, pour comprendre cette idée, on va s'arrêter sur la vie d'un homme, un homme qui s'appelle Jacob. Vous savez que on est tous de cultures différentes. Je suis moi-même originaire des Antilles, de la Guadeloupe. J'ai grandi en Guadeloupe. J'ai ma culture et mon arrière-plan antillais. Et quand on lit l'évangile, quand on lit la Bible, on peut facilement y projeter notre culture, notre compréhension des choses. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je lisais, ou en tout cas j'écoutais un message concernant cet homme Jacob, et la personne qu'il présentait, étant américaine, nous parlait de cet homme comme étant un self-made man, un homme qui s'était construit seul, un homme qui était capable à la force de ses propres mains, à la force de son énergie, d'arriver d'aboutir à quelque chose. Effectivement, quand on voit son histoire, quand on lit son histoire, il a quitté chez lui, il a quitté sa maison avec rien d'autre qu'un bâton, c'est ce qu'il dit. Et de nombreuses années plus tard, alors qu'il fait le chemin retour, en train de retourner chez lui, il arrive là avec un troupeau nombreux, avec une famille, avec des enfants et avec des serviteurs et des servants. Et on pourrait considérer les choses comme en se disant, cet homme a travaillé. Cet homme s'est donné. Cet homme est arrivé à ce qu'il est parce que il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a mis de son énergie, il a mis de son cœur. C'est son abnégation, ses sacrifices qui ont donné ce résultat. On pourrait regarder les choses comme cela. Mais la Bible ne nous présente pas les choses comme cela. Oui, Jacob avait beaucoup de biens. Oui, Jacob semblait posséder tous ceux qui étaient nécessaires. Mais Jacob n'était pas encore victorieux. Jacob n'était pas encore vainqueur. Il a fallu qu'il vive quelque chose de particulier. Et la Bible nous raconte cela. Et même Jacob en est conscient. À un moment donné, Jacob va dire, mais tout ce que j'ai, je ne le dois qu'à Dieu. Mais Dieu ne voulait pas s'arrêter là pour lui. Bien-aimé, dans l'histoire de Jacob, Dieu est à l'œuvre. Dieu a toujours été à l'œuvre. Et Dieu continuera d'être à l'œuvre dans son histoire. Dans l'histoire de l'humanité tout entière, dans l'histoire des hommes, Dieu est encore à l'œuvre. Et tout à l'heure, j'ai aimé cette pensée que votre pasteur Mathieu a partagée en disant que oui, Dieu a fait quelque chose, il a fait tomber les chaînes, et si tu ne le vois pas encore, sois assuré que Dieu, lui, l'a déjà fait. Et que le bruit des chaînes qui sont tombées, spirituellement, ont résonné. Parce que Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui. Et Dieu était à l'œuvre pour conduire Jacob dans un temps particulier de sa vie. Et je pense qu'il le veut aussi pour chacun d'entre nous. Mais pour que nous comprenions cela, je vous invite à lire avec moi ce passage dans Genèse au chapitre 32, au verset 24. Voilà ce qui nous est dit. « Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. » Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péliel, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Ce moment que nous avons lu, je vous l'ai dit, Jacob est en train de revenir dans sa famille. Et là, il sait, ou en tout cas, il croit deviner que son frère va venir pour l'attaquer. Et donc, il va se trouver dans ce moment où Dieu, il va vivre ce temps de rencontre avec Dieu. Je pense que tous les événements de la vie de Jacob l'ont conduit à ce moment précis. C'était l'endroit où Dieu voulait l'amener. Et à partir de cet endroit, il a pu vivre d'autres choses avec Dieu. Mais c'était le moment par lequel il devait passer. C'était la chose qu'il devait connaître. Et en réalité, bien-aimé, je pense que pour chacune de nos vies d'enfants de Dieu, Dieu veut nous conduire vers un point où nous allons être vaincus pour devenir vainqueurs. Chacune de nos vies, Dieu va nous amener dans une situation où il va faire en sorte que nous soyons vaincus pour que nous puissions être vainqueurs. Mais pour cela, il nous faut un peu comprendre tout ce qui a pu se mettre en place dans ce temps. Il nous a été dit, la première des choses, c'est que Jacob a vaincu, ou en tout cas a combattu avec les hommes et avec Dieu, il a été vainqueur. Mais quand on regarde bien la vie de Jacob, on se rend compte qu'il a connu, et c'est mon premier point, des victoires qu'on pourrait qualifier de trompeuses. Dès sa naissance, les choses vont commencer un peu bizarrement. Il est jumeau. Il a un frère jumeau qui s'appelle Ésaü. Son frère jumeau est le premier à naître, mais la Bible nous dit que lui, il tenait le talon de son frère. Et que donc, il est sorti aussi, et c'est comme pour dire, non, va pas trop vite, je suis là, tu ne seras pas le premier, je ferai en sorte que je reste là, que je te surveille, je serai toujours derrière toi. Et en fait, toute cette manière d'agir a toujours suivi Jacob, tout au long de sa vie, avec son frère aîné, Ésaü. Alors bien sûr, il y a eu cette anecdote lors de leur naissance, mais il y a eu d'autres événements. À un moment donné où son frère revient de la chasse et la Bible nous dit que lui, il était plutôt Jacob, restait dans la maison, dans la tente, et son frère, c'était un homme des champs qui aimait courir et chasser, ramener du gibier. Et un jour où son frère revient de la chasse et épuisé, il a faim, il sent une odeur agréable, son frère a préparé un plat de lentilles, il se dit, mais voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin pour restaurer mon âme, pour restaurer mes forces. Et donc, il demande à son frère à manger. Et Jacob lui dit, écoute, oui, je te donnerai. Mais toi, tu me donnes quelque chose en échange. Tu me donnes ton droit d'aînesse. C'est-à-dire qu'il dit à son frère Ésaü, tu reconnais que finalement, c'est moi le premier, pas toi. C'est bien moi qui suis sorti le premier du ventre de maman et toi, t'es le deuxième, t'es le petit frère. Son frère, et enfin, et sachant que cela ne le conduisait à rien de particulier, a accepté, je pense. Mais Jacob, lui, n'est pas resté là. Il s'est dit, c'est une bonne chose que mon frère ait reconnu les choses, mais je vais aller un peu plus loin. Je vais aller voler la bénédiction que mon père va lui donner. À ce temps-là, les patriarches, c'est-à-dire les pères de famille, bénissaient les enfants, surtout lorsqu'ils étaient, au moment où ils allaient mourir, ils bénissaient leurs enfants. Et il y avait une bénédiction particulière pour le fils aîné. Et ce qu'a fait Jacob, c'est qu'il s'est déguisé en son frère, il s'est grimé puisque son père était aveugle, et il a reçu la bénédiction de la part de son père. Il a volé le droit ou la bénédiction de son frère. Après, il a dû quitter la maison. Vous comprenez bien que son frère n'a pas apprécié ces choses. Donc, il a quitté la maison. Et là, il s'est retrouvé chez son beau-père, celui qui va devenir son beau-père, Laban. Et là encore, les choses vont se reproduire. Il va y encore en voir des magouilles. Il va encore y avoir de la triche. Il va encore y avoir des choses mises en place. Mais le problème, c'est qu'il a rencontré Laban. Laban est comme lui. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, il devait travailler un certain nombre d'années pour avoir une épouse. Et finalement, ce que fait Laban, c'est qu'il ne lui donne pas l'épouse qui était prévue, il lui donne sa sœur. Et lui dit, mais travaille encore un peu et je te donnerai celle que tu veux. Et ça se passe comme ça, il change son salaire de temps en temps et les choses ne se passent pas bien jusqu'à ce qu'il aille à la confrontation avec lui et que finalement il s'en aille. Et quand il s'en va, là, il entend parler de son frère qui revient vers lui. Il n'a pas vu son frère pendant des années et il entend que son frère vient avec des troupes en armes, 400 hommes. Et il se dit là, ça va être compliqué. Bien qu'étant en lutte avec les hommes, nous le voyons ici, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il a été vainqueur vis-à-vis des hommes. Il a bien sûr obtenu ce qu'il voulait, il a obtenu ce qu'il désirait, mais à quel prix est-ce qu'il a obtenu ces choses? Voilà ce que nous dit la Bible. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Et quand je lis cette définition, l'homme qui se confie en l'homme, c'est exactement l'histoire de Jacob. Il est comme cela. Il est comme celui qui vit dans des lieux déserts, dans une terre salée sans habitants. Il a obtenu tout ce qu'il voulait, mais à quel prix ? Il a trompé son père. Vous imaginez les repas de famille après ? Jacob, Ésaü, son père, sa mère. Il devait être très silencieux les repas. Les mouches ne devaient pas voler. En tout cas, on entendait les mouches voler plutôt. Pourquoi ? Parce que l'ambiance était lourde. Il avait trompé son père. Vis-à-vis de son frère, quelle attitude devait-il avoir? J'imagine que son frère, lui, il nous a dit la Bible qu'il aimait chasser, qu'il allait dans les champs, il devait avoir des armes, des arcs. Et peut-être qu'un jour, en fabriquant un arc, il le tend et il y a son frère dans la direction et il tire et ça tombe juste à côté. Il dit, ah, excuse-moi, la flèche est partie. J'imagine que son frère Ésaü n'était pas content de cette situation, ne voulait pas cette situation. Et même avec son beau-père, Laban, je vous ai dit, il l'a quitté, mais il l'a quitté dans des situations tellement compliquées. Et son beau-père, à un moment donné, va le pourchasser. Jacob n'est pas en paix. Il a obtenu des choses, mais il n'est pas en paix. Il a lutté avec les hommes et il a gagné en apparence, mais il a perdu sa paix. Il n'est pas victorieux. Jacob n'a pas vraiment remporté de victoire. Mais c'est encore plus flagrant lorsqu'on s'arrête et qu'on considère sa relation avec Dieu. Pourtant, il nous est dit, tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. Comment est-ce que Jacob peut-il être vainqueur dans cette situation? Le fait que Jacob ait tenu tête à l'homme, et nous l'avons vu, le combat a duré pendant toute la nuit, ne signifie pas qu'il ait remporté le combat. Parce que lorsqu'on regarde à la fin les deux combattants, les deux protagonistes, il y en a un qui est plutôt mal en point et l'autre qui reste frais. Et celui qui est frais, ce n'est pas Jacob. On ne peut pas, du fait, dire qu'il a vaincu, qu'il a gagné. Le fait qu'il soit vainqueur ne signifie pas qu'il ait remporté le combat et qu'il ait vaincu Dieu. Bien au contraire, Dieu a été vainqueur. Dieu l'a vaincu. Jacob repart de l'affrontement en ayant été diminué physiquement. Jacob repart de l'affrontement en ayant perdu, mais spirituellement, il a grandi. Parce qu'au travers de ce combat, Dieu a triomphé de ses réticences. Au travers de ce combat, Dieu a triomphé de ses manigances. Au travers de ce combat, Dieu a été celui qui s'est montré comme étant bien supérieur à lui. Et donc, spirituellement, Dieu peut agir pour lui, miraculeusement, le changer, le transformer. Jacob a lutté avec Dieu. Il a certes perdu physiquement, mais il est devenu vainqueur spirituellement. Il est devenu vainqueur spirituellement. Lorsqu'on parle de ce passage de Jacob, bien souvent, on pense à Jacob qui serait celui qui gère ses propres affaires. Et c'était là le problème de Jacob. Jacob gérait ses propres affaires et ne permettait pas à Dieu d'intervenir dans ses affaires. Je crois que la semaine dernière, j'étais au milieu de vous, le pasteur Raymond Pierre a cité cette phrase, j'espère ne pas me tromper, mais il disait « Soit Dieu est seigneur de tout, soit il n'est seigneur de rien du tout. » Et dans la vie de Jacob, quelque part, je pense qu'il n'était seigneur de rien du tout. Et dans nos vies, ça peut être le cas. On peut laisser de la place à Dieu. Vous savez, Jacob avait grandi, il avait même fait une expérience avec Dieu. Dieu s'était révélé à lui de manière surnaturelle. Il avait entendu Dieu lui parler. Mais il y avait des aspects dans sa vie dans lesquels il disait « ça, c'est moi qui gère. Ici, c'est chez moi. » Il avait entendu parler de Dieu dans sa famille. Son père était un homme qui craignait Dieu. Mais lui avait choisi de garder certains domaines de sa vie. Il pensait que Dieu ne pouvait pas être son ennemi. Il pensait que Dieu ne serait jamais celui qui l'attaquerait d'une certaine manière, mais c'est pourtant ce que nous avons lu. Dieu l'a attaqué. Dieu l'a attaqué. Un homme attaqua Jacob. Jacob n'est pas celui qui a l'initiative, c'est bien Dieu qui fait ces choses et c'est Dieu qui passe à l'action. Ce passage ne nous parle pas de la prière fervente. Souvent, on pourrait le considérer comme cela. On pourrait dire que là, il s'agit d'un encouragement à la prière fervente. Mais pour moi, ici, il n'est pas du tout question de prière fervente. Quand vous lisez bien ce passage, vous allez vous rendre compte que Jacob, au début, a commencé à prier. Mais dans sa prière, il ne trouvait pas la paix. Alors, il va faire ce qu'il sait faire de mieux. Et je pense qu'on est tous comme cela. En tout cas, moi, je suis comme ça. Je me mets en prière, je crois que Dieu va agir. Peut-être que vous êtes comme ça aussi. Vous avez entendu vos pasteurs, je suis sûr, qui vous parlent de la prière. Ça vous motive, ça vous inspire pour avoir des vies de prière. Et vous vous mettez dans la prière parce que vous êtes face à une situation compliquée. Mais parce que vous ne trouvez pas la paix, vous sortez de la prière et vous allez faire ce que vous avez l'habitude de faire. Et c'est exactement ce que Jacob va faire. Il prie au début, mais après il sort de ce temps de prière et va dire « J'ai pensé à un plan ». Vu que mon frère vient m'attaquer, je vais faire deux camps et je vais les séparer par une petite rivière là. Il y aura un camp qui sera à gauche, un camp qui sera à droite. Si jamais il attaque le camp de gauche, le camp de droite pourra s'échapper. Et inversement, il va se mettre là tout de suite à penser à des choses. Et quand Dieu vient l'attaquer, il n'est pas en train de prier, il n'est pas là en train de retenir Dieu et de lui dire « écoute, il faut que tu me bénisses ». Non, il était en train de manigancer ces choses dans sa tête. Et Dieu vient comme l'enlever de ce temps et lui dire « il y a autre chose à faire, je veux faire autre chose au travers de toi, je veux agir différemment pour toi ». Ce n'est pas Jacob qui cherche Dieu pour lutter avec lui, c'est plutôt Dieu qui vient lutter avec Jacob pour l'amener à un point de soumission physique et spirituelle. Dieu voulait que Jacob soit conscient de son néant, de sa petitesse et surtout du fait qu'il était une créature impuissante. Et pour nous, bien-aimés, Dieu agit aussi pareil. Dieu veut que nous sachions que nous ne sommes pas ceux qui seraient capables d'agir et d'influencer sur tout le reste de notre vie comme nous le voudrions. Nous n'en avons pas la possibilité et Dieu va des fois nous contraindre et nous mettre dans des situations compliquées, bien-aimés. Nous sommes là pour apprendre une chose, une réalité que Paul a bien comprise et que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12 au chapitre 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Et fini, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et on pourrait traduire, car quand je suis vaincu, c'est alors que je suis vainqueur. Jusqu'à ce moment de la vie de Jacob, comme son nom l'indiquait, il tentait de supplanter les autres, il tentait de faire valoir ce que lui savait, ce que lui voulait, la manière dont il agissait, ses capacités, ses forces. Il savait que Dieu existait. Il savait que Dieu avait un plan pour lui. Mais il ne se soumettait pas à Dieu. Mais il va se produire quelque chose, une défaite qui va tout changer. Il avait des fois, à d'autres moments, été confronté à des défaites, on pourrait le considérer comme cela, notamment avec Laban, son beau-père. Mais là, il va vivre une défaite qui va tout changer. Une défaite qui va changer toute sa vie, et c'est mon deuxième point. Bien-aimé, bien souvent, Dieu va se montrer et va être comme notre adversaire. Et quand il se montre notre adversaire, il le fait pour notre propre bien. Ne soyons pas surpris lorsque Dieu va nous tendre des embuscades. Parce que Dieu, des fois, va le faire pour nous mettre à terre, pour nous mettre dans des situations où nous allons être obligés de refuser, ou en tout cas de renier, de laisser derrière notre autosuffisance, notre paresse morale, notre orgueil, notre chair, toutes ces choses qui sont en nous et qui le déplaisent, qui lui déplaisent, notre propre volonté. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons trois principaux adversaires. On est d'accord pour dire le diable, le monde et notre chair. On ne trouve rien à redire que Dieu combatte le monde et le diable. Et au contraire, on prie pour cela, on lui demande « Seigneur, continue de le faire ». Et on sait qu'à la croix, le Seigneur a remporté la victoire. Qu'il est plus que vainqueur, notre Seigneur. Mais si notre Dieu attaque et combat le monde et le diable, croyez-vous qu'il ne combattra pas aussi notre chair ? Croyez-vous qu'il ne combattra pas votre chair ? La chair, bien aimé, ce n'est pas cela. C'est ce qu'il y a en nous qui se rebelle contre Dieu, qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et Dieu veut combattre notre chair. Et on le voit dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On le voit avec Moïse notamment. Vous connaissez certainement ce passage de Moïse au chapitre 3, Exode au chapitre 3, pardon, où il est question de Dieu qui se révèle à Moïse dans ce buisson ardent, et Dieu qui lui parle, qui lui donne tellement de belles révélations, qui l'incite à courir, à aller en Égypte et à délivrer le peuple. Mais si vous lisez bien, ça on est au chapitre 3, on arrive au chapitre 4 de l'Exode. Il nous est dit qu'à un certain moment, dans une nuit, Dieu va venir pour attaquer et faire mourir Moïse. Mais comment est-ce possible, Dieu ? Toi, tu es venu le chercher là où il était alors qu'il était en train de s'occuper des brebis. Tu lui dis d'aller en Égypte, il va en Égypte, il fait ce que tu lui dis. Et en chemin, tu essaies de le faire mourir. Mais c'est quoi l'idée derrière tout ça ? L'idée derrière tout ça, c'est que Moïse ne s'était pas conformé à certaines choses que Dieu demandait. Et que Dieu ne pouvait pas tolérer ces choses. Et Dieu s'est montré son adversaire dans ce moment précis. Dieu a été celui qui a combattu sa chair et Dieu veut être encore celui qui combat notre chair. Et bien aimé, ce ne sont pas des batailles qui sont faciles. Et ce sont pour moi les batailles les plus importantes, celles qu'on trouve dans la Bible. Quand vous lisez les épîtres, on ne fait que voir ce genre de choses. Des fois, on pourrait être poussé, réjoui et regarder au combat contre les esprits méchants et toutes ces choses. Mais vous savez ce que Jésus a dit aux disciples qui sont revenus en disant « Mais même les esprits méchants nous sont soumis. » On leur dit « Mais ça, c'est rien. Soyez heureux de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » C'est là ce qui est le plus important. Et c'est pour ça que pour nous, ce qui est le plus important, ce que nous trouvons le plus souvent dans les évangiles, c'est cela, c'est le combat contre nous, notre propre chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. En tant qu'enfant de Dieu, on arrive souvent à des moments de nos vies où on sait. Des fois, même si vous êtes jeune converti, vous ne l'avez pas lu encore dans la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit qui vit en vous, vous dit que ça, ce n'est pas une chose à faire. Mais vous, vous avez envie d'aller là. La chair a des désirs contraires. La chair, elle a envie d'aller par là, mais l'esprit me dit qu'il faut aller par là. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Pour que je ne fasse pas ce que je veux, pour que je me soumette à l'esprit. Dieu veut faire mourir la chair en nous. Dieu veut faire mourir la chair en toi. Dieu doit donc lutter pour que cela change. Il a lutté avec Jacob et Dieu va frapper Jacob à la hanche. Mais Dieu ne va pas le réduire en poussière, Dieu ne va pas l'anéantir. Dieu va simplement le mettre dans une situation où il ne pourra plus dépendre de ses propres forces. Où il ne pourra plus compter sur lui, sur ses capacités. C'est ce qu'il faisait jusqu'à maintenant et Dieu va le mettre dans une situation où il ne peut plus le faire. Dieu lui a fait la grâce de se rouler dans la boue avec lui. Il nous faut réaliser que Dieu est saint, que Dieu est grand, Dieu est élevé, Dieu est tellement plus grand que nous. Nous ne sommes que ses créatures. Et pourtant, Dieu, à certains moments, accepte de lutter avec nous. Il accepte à se rouler dans la boue avec nous, mais sa patience a des limites. Lorsque la nuit est passée, à un moment donné, Dieu a mis fin, il a mis un terme à tout cela. À un moment donné, si tu refuses de t'abandonner à Dieu, à un moment donné, si tu refuses de te soumettre, de soumettre ta chair à la volonté de Dieu, Dieu saura te faire plier. Dieu a les moyens de te faire plier. Dieu saura te paralyser. Dieu saura te paralyser. On ne boxe pas, bien aimé, dans la même catégorie avec le Seigneur. Vous savez qu'en boxe, il y a différentes catégories. Les poids lourds ne se battent pas avec les poids légers. Mais avec Dieu, on ne boxe pas dans la même catégorie. Je le disais, il est Dieu. Et il exercera toujours son autorité sur nous, sur notre agenda. Et peut-être est-ce que tu vis une situation comme cela où tu avais tout prévu, tout mis en ordre et tu t'étais dit « voilà ce que je vais faire, voilà comment je vais vivre ». Et là, la maladie, le travail, la famille, quelque chose se passe et vient dérégler tout ce que tu avais prévu. Dieu est bien souvent derrière ces choses. Dieu est bien souvent celui qui, au travers de ces choses, veut nous enseigner quelque chose. Et on pourrait choisir de se retirer de ces choses, de quitter ces choses, mais bien aimé, faisons attention. Si Dieu nous conduit là, si Dieu veut nous paralyser dans ces choses, c'est parce qu'il a quelque chose à nous apprendre là. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Tu as besoin d'être vaincu pour devenir vainqueur. Dieu a frappé Jacob à la hanche, ça l'a diminué physiquement, mais il a été élevé. Et Jacob n'a plus été le même homme. Je disais tout à l'heure la défaite qui change tout. Jacob n'a plus été le même. Jacob est devenu Israël. Celui qui lutte avec les hommes et qui lutte avec Dieu. Mais je préfère à cela une meilleure traduction, en tout cas c'est celle que je préfère, qui nous dit « Dieu combat » tout simplement. Dieu combat. J'aime beaucoup cette traduction tout simplement parce qu'en fait elle ne met plus l'accent sur Jacob. Quand on dit « celui qui combat » ou « celui qui lutte avec Dieu », le sujet reste celui, ici Jacob. Mais dans le but ici de ce changement de nom « Jacob » à « Israël », Israël, elle, c'est le diminutif, en tout cas la partie qui dit Dieu, il n'y a plus du tout de Jacob. Il n'y a que Dieu, c'est Dieu qui est là et qui combat, c'est Dieu qui est l'acteur. Et cela peut se décliner de plusieurs manières. Dieu combat Jacob. Et on l'a vu, Dieu a combattu Jacob. Dieu s'est mis en combat contre Jacob pour l'empêcher de faire ce que lui voulait faire, pour l'amener dans un temps de soumission, pour qu'il obéisse à ce que Dieu voulait pour lui. Dieu combat Jacob. Mais cela aussi peut se décliner par Dieu combat pour Jacob. Parce que lorsqu'on accepte de laisser Dieu nous vaincre, à partir de ce moment-là, Dieu est celui qui va combattre pour nous. Lorsqu'on accepte de reculer et de lui dire « Écoute Seigneur, tu passes devant », alors Dieu s'occupe de la situation. Et ce n'est plus nous qui allons nous en occuper. Mais nous, on peut avoir cette tentation de vouloir être ceux qui résolvons le problème. Mais la bonne question n'est pas de savoir si nous faisons ce que nous voulons, mais de savoir si nous faisons ce que Dieu veut. Vous connaissez ce temps où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et ils vont rentrer en possession du pays que Dieu leur a promis, le pays de Canaan. Et il y a une première ville fortifiée qui les attend, c'est la ville de Jéricho. Et là, il y a le chef du peuple, Josué, qui vient inspecter la ville et qui voit un homme avec son épée. Et Josué s'approche et lui dit, « Es-tu pour nous ou es-tu pour nos ennemis ?» Et j'imagine Josué qui est là dans son attitude guerrière, peut-être avec son épée déjà prête à dégainer, et qui voit cet homme et qui lui dit, « Est-ce que tu es avec nous ou est-ce que tu es contre nous ?» Si tu es avec nous, tu as de la chance, je vais te laisser vivre. Mais si tu es contre nous, attention à toi. Et la réponse de cet homme, qui est l'ange de l'Éternel, c'est simplement non. Il est en train de lui dire, la bonne question, ce n'est pas de savoir si moi je suis avec toi ou si je suis contre toi. La bonne question, c'est de savoir si toi, tu es avec moi. C'est à nous de nous ranger derrière Dieu. C'est à toi de te ranger derrière Dieu et derrière sa volonté. Dieu ne va jamais se plier à ta volonté, bien-aimé. Qui sommes-nous pour impliquer, ou en tout cas pour forcer Dieu à se plier à notre volonté ? Il est Dieu souverain. Il est Dieu Seigneur. Il est Dieu Tout-Puissant. On se soumet à sa volonté. On se soumet à sa volonté. Dieu combat pour Jacob. Dieu avait déjà des plans pour Jacob. Dieu lui avait dit, Dieu lui avait révélé, Dieu lui avait parlé. Mais le problème, c'est que Jacob voulait faire les choses à sa manière. Mais à partir de ce moment, il va laisser Dieu faire les choses. Il va laisser Dieu agir pour lui. Dieu combat pour Jacob. Serait-il possible que Dieu soit aussi celui qui puisse combattre pour toi ? Ne serait-ce pas merveilleux de savoir que Dieu serait celui qui pourrait combattre pour toi ? La réponse est oui. Dieu a des plans dans ta vie. Dieu a des plans pour ta vie. Et encore, tout à l'heure, cela nous a été rappelé, alors que toi, tu n'es peut-être pas conscient, ou que tu cries à Dieu, tu dis, mais Seigneur, j'ai ces chaînes qui m'empêchent de me mouvoir, qui m'empêchent de bouger. Dieu est celui qui fait tomber ces chaînes. Dieu a des plans pour toi. Dieu a des objectifs et il veut les poursuivre avec toi. Mais est-ce que tu te ranges derrière Dieu et derrière sa volonté ? Ou est-ce toi qui essaies d'arriver au bout de ce que Dieu veut faire pour toi ? Je le disais tout à l'heure, les difficultés que nous traversons, Dieu les a prévues. Dieu n'est jamais pris au dépourvu, bien-aimé. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. La Bible nous dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui sont aimés de Dieu ». Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Et quand nous passons, et quand tu passes par un moment difficile, Dieu a déjà prévu la sortie. Et la sortie commence par le fait de se soumettre à lui. La sortie commence par le fait d'être vaincu par lui. Tu seras vainqueur lorsque tu le laisseras, lui, être vainqueur de toi. Lorsque tu accepteras de te soumettre à ce que lui veut pour toi. Ça va peut-être des fois impliquer que tu vas devoir endurer un peu plus longtemps ces difficultés que tu es en train de passer. Mais le Seigneur te donnera la grâce, et nous le verrons tout à l'heure, de vivre ces choses. Ça va peut-être impliquer que le Seigneur va faire quelque chose de miraculeux que lui seul est capable de faire, et gloire soit rendue à Dieu parce qu'il est capable de le faire, et il le fait encore aujourd'hui. Mais il te faut t'incliner et te soumettre à Dieu. Tout va changer pour Jacob. Il ne sera plus le même qu'il a été. Son nom va changer. Mais une chose ne va pas changer après cette bataille. Et j'inviterai les musiciens, si vous voulez bien, à revenir. Nous allons terminer. Il y a une chose qui ne va pas changer. C'est que Dieu ne va pas guérir la jambe de Jacob. Au cours de cette bataille, il nous a été dit que Dieu va le frapper à la hanche. Et à partir de ce moment-là, Jacob va être cet homme qui va boiter. Sa démarche va changer. Partout où il va aller, on va le reconnaître à cela, au fait qu'il boite, au fait qu'il n'est pas capable, qu'il n'est pas libre de ses mouvements, qu'il n'est pas capable d'aller là où il veut, comme il veut, quand il veut. Pourquoi est-ce que ces choses sont importantes ? Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Cette claudication, cette boiterie, c'est une bénédiction pour lui. Parce qu'à chaque fois qu'il va se retrouver dans une situation où il se dirait « j'aimerais faire quelque chose, je voudrais peut-être courir plus vite », il va se sentir empêché, il va se souvenir « en fait, ce n'est pas à moi de faire et je vais dépendre de toi, Dieu ». Le fait qu'il boite n'est pas un problème. Le fait qu'il boite n'est pas quelque chose de honteux. Le fait qu'il boite est une bénédiction. Cela lui rappelle que la force est en Dieu et non en lui. Dieu l'a voulu ainsi. Jacob qui boite, c'est un signe de sa faiblesse. Mais c'est surtout pour lui la preuve de la force de Dieu. La manière qu'il a d'agir pour s'appuyer sur Dieu davantage. Ce matin, j'aimerais souhaiter pour chacun d'entre nous quelque chose de particulier. En général, dans les églises, on prie pour que tout le monde soit guéri. Mais j'aimerais presque prier pour que chacun de nous, on puisse boiter. Boiter parce que le Seigneur nous aura touché quelque part. Cela nous aura rendu un peu instable, un peu infirme, mais cela surtout nous aura permis de marcher dans la victoire de Dieu. C'est Paul qui nous dit dans 2 Corinthiens, j'ai lu une partie de ce verset, mais je voudrais le lire en entier. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffloter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'enlever de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose en moi. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ici, on a Paul qui nous parle sans filtre de choses qui le concernent. Et là, il nous dit qu'il y avait comme une écharpe dans sa chair, quelque chose que Dieu a permis, ou en tout cas a laissé dans sa vie, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Et Paul nous dit, j'ai prié trois fois. Et quand Paul nous dit ça, moi, je ne sais pas comment vous voyez Paul, mais quand je lis les épîtres et que je vois la vie de prière de Paul, je me dis que Paul n'a pas juste prié, Seigneur, enlève cette petite écharpe de ma chair. Paul a dû en faire des vrais sujets de prière, des temps de jeûne et de prière. Pendant trois fois, Seigneur, tu vas ôter cette chose qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'aller là où je veux, qui m'empêche de faire quelque chose de plus grand pour ton évangile. Il a prié avec cœur, avec détermination. Mais Dieu lui a dit deux choses. Ma grâce est suffisante et ma force est active quand tu es faible. Bien-aimé, j'aimerais te laisser ces deux choses. La grâce de Dieu est suffisante. Tu es devant un obstacle qui te paraît insurmontable. Pour Jacob, c'était ça, son frère qui vient le tuer. Il était devant la mort. C'est à cela qu'il pensait. J'ai été méchant avec mon frère dans le passé. Mon frère vient avec 400 hommes, c'est forcément pour me tuer. Il est devant la mort. Et l'horizon qu'il a devant lui, c'est la mort. Et lui, avec toutes ses forces, il essaie d'éviter cet horizon. Mais Dieu lui apprend, non, c'est moi qui gère. Dieu veut te faire grâce. Je ne sais pas quel est l'horizon qu'il y a devant toi. Ce qui te fait peur et qui te pousse à t'agiter. À faire comme bon te semble. À ne pas te soumettre à ce que Dieu veut. Mais Dieu te dit qu'avec sa grâce, ce qui te paraît insurmontable est faisable. Mais il te dit aussi que ma force va s'accomplir en toi lorsque tu accepteras de me laisser agir. Être vaincu pour devenir vainqueur. On voit que Jacob a boité toute sa vie, mais il a marché avec Dieu. C'était rien en comparaison de tous les bœufs, de tout ce qu'il avait. C'était tellement mieux de boiter, de marcher avec Dieu. On voit que Paul avait une écharde, mais que lui, toute sa vie, il a vécu sous la puissance de Christ. Et toi, bien-aimé, où en es-tu? La bonne nouvelle ce matin, c'est que tu peux vivre en boitant et être vainqueur. Tu peux vivre avec une écharde et être vainqueur. Et ce matin, je voudrais simplement t'aider à saisir cette grâce de Dieu. Alors que nous allons simplement baisser nos têtes, nous allons prendre le temps pour prier Dieu, lui demander encore de bénir là où tu en es dans ta situation. Je veux vraiment prier parce que je pense que Dieu parle à ton cœur et Dieu veut vraiment changer les choses, changer une atmosphère spirituelle dans ta vie. Mais pour ça, il a besoin que tu te soumettes. Pour ça, il a besoin de te vaincre. Pour te vaincre, ça veut dire qu'il va avoir besoin de te faire mal, et je mets ça entre guillemets. Il va avoir besoin d'employer de la force, mais c'est indispensable parce qu'il veut que tu sois vainqueur. Il veut te rendre participant de sa victoire. La Bible nous dit qu'il a remporté toute la victoire sur la croix. Merci Seigneur Jésus. Mais il veut t'entraîner dans son triomphe. Mais pour ça, il a besoin que tu sois vaincu. Il a besoin que tu capitules. Il a besoin que tu dises, Seigneur, je baisse les armes. Oui, j'avais pensé à cela. Je voulais ça pour moi. Je m'étais dit que j'irais dans cette direction parce que je ne voyais pas comment je pourrais faire autrement. Mais parce que tu es celui qui combat avec moi. Je veux me soumettre, Seigneur. Je veux me soumettre. Et alors que nous avons les têtes baissées, je voudrais simplement te demander de te lever. À ta place, toi qui as besoin qu'on prie pour toi. Vraiment, lève-toi, pas devant moi, toutes les têtes sont baissées, mais moi je ferme les yeux, c'est pas ça l'important. C'est que là, tu te tiens devant Dieu. Tu te tiens devant Dieu. Tu es là à Péniel, c'est ce temps que Dieu a voulu, que Dieu attend pour toi. Et ce temps où Dieu veut bénir ta vie, changer l'atmosphère de ta vie. Laisse-toi vaincre pour devenir vainqueur. Abandonne-toi complètement au Seigneur. Abandonne-toi complètement au Seigneur. Éternel mon Dieu. Seigneur, nous voulons prier. Parce que Seigneur, nous voulons reconnaître que nous sommes bien souvent des Jacob, Seigneur. Nous sommes bien souvent comme cet homme qui a ses plans, a ses projets, a ses manigances et agit comme bon lui semble. Et Seigneur, tu vois les situations devant lesquelles mes bien-aimés se trouvent. Peut-être qu'ils ont déjà pris le temps de prier, mais que, comme Jacob, ils sont sortis de ce temps de prière. Parce que là, dans leur cœur, il y a cette agitation. Ils ne trouvent pas la paix et ont commencé à penser à leur propre plan. Seigneur, merci parce que tu es celui qui se dresse devant eux et qui les empêche d'aller plus loin. Mais je prie pour qu'ils ne combattent pas indéfiniment avec toi, mais pour qu'ils se soumettent encore à toi, Seigneur. Je prie pour qu'ils plient le genou devant toi. Je plie encore, Seigneur, pour qu'ils boitent devant toi, qu'ils soient atteints, mais que spirituellement ils grandissent, Éternel. Je prie parce que tu veux que nous soyons vainqueurs. Je prie pour que nous nous abandonnions à toi, Éternel, mon roi, et que nous te laissions, Seigneur, combattre pour nous. Tu vois les situations devant lesquelles ils sont, Seigneur, ces situations qui sont impossibles et des horizons bouchés, des horizons qui conduisent à la mort. Moi, je veux proclamer ton nom. Je veux proclamer ta vie, je veux proclamer ta victoire. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu victorieux. Et dans ces situations, Seigneur, tu vas accompagner nos bien-aimés. Tu vas leur donner la grâce, Seigneur. Et tu vas manifester ta puissance et ton autorité. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui se rend vainqueur de nous pour nous aider à être vainqueurs, Jésus. Alléluia.
Je m'abandonne encore, je m'abandonne. Je m'abandonne. Faisons cette prière d'abandon à Dieu ce matin, Église. Je m'abandonne. La prière du cœur.
Je veux te connaître.
Soyons une Église en prière ce matin. Une Église qui invoque le nom de Jésus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne.
Je veux te connaître plus. Je veux te connaître.
Invoquons le nom du Seigneur, tel un vent puissant ensemble.
Tel un vent puissant. Souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner. En moi.
Tel
un ouragan, réveille-moi, je viens régner, je viens régner. Oh oui, Dieu vient régner,
je viens régner, je viens régner, je viens régner, je viens régner. Oh, Dieu vient régner en moi, Dieu. Je m'abandonne, je m'abandonne. Abandonne-toi, Église. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je m'abandonne, je m'abandonne. C'est notre prière, Seigneur. C'est notre déclaration, Seigneur. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Seigneur, ce matin, nous voulons confesser en tant qu'Église, quand nous sommes faibles, c'est qu'alors que toi, tu es fort et que tu nous rends forts, Seigneur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé par rapport à ta parole. Cette révélation que tu as donnée à Jacob, cette révélation transmise dans la nouvelle alliance à l'apôtre Paul, nous voulons, nous, l'Église d'aujourd'hui, nous souvenir que tu veux qu'on soit vaincu pour qu'on soit vainqueur. Et nous déclarons, Seigneur, dans ta grâce, que l'Éternel se lève et combat pour celui qui crie à lui ce matin. Seigneur, merci de bénir et de souffler et d'agir dans la vie de chacune et chacun d'entre nous. Oui, nous le confessons. Nous n'avons point honte de dire que nous avons besoin de Jésus. Nous n'avons point honte de dire que nous avons besoin du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Nous n'avons point honte de dire, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Pour cette année, pour cette rentrée, alors que nous allons vivre des temps forts dans nos vies, dans nos familles, oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui se sont levées. Et en Église, nous les soutenons afin que ta victoire soit leur victoire dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es ce Dieu qui accompagne dans les aspects les plus concrets de nos vies. Merci pour l'état d'esprit, le cœur. Merci de nous ramener au cœur de l'Évangile. Merci parce que tu nous rappelles que le Christ est mort pour que la vie soit manifestée. Alors apprends-nous, Seigneur, à mourir à nous-mêmes. Pour que ta vie soit manifestée. Si l'Église, même si c'est pas simple, mais par la foi veut dire oui Seigneur, on veut continuer d'apprendre cette révélation d'être vaincu pour être vainqueur. Est-ce que tu peux applaudir ton Seigneur, le glorifier, le célébrer, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si d'une manière ou d'une autre, sur ces derniers dimanches, tu as été interpellé par l'Évangile ou oh, ce dimanche-là, le Seigneur a touché ton cœur, nous démarrons un parcours baptême et nous sommes heureux d'accompagner un peu plus de 10 personnes maintenant et d'autres qui sont en train de se rajouter, qui veulent faire de Jésus leur Sauveur et Seigneur aussi en étant baptisés par immersion. Donc à la fin de cette célébration, toi qui as été touché d'une manière ou d'une autre, toi qui veux suivre Jésus, toi qui veux t'engager avec Jésus, Nous t'invitons à te faire connaître pour qu'on puisse te rencontrer et que tu puisses suivre ce parcours de disciple pour t'emmener dans les fondamentaux de la Bible, de l'enseignement du Christ, de la vie chrétienne, et ainsi pouvoir être baptisé en engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Que Dieu soit béni. Ce matin, nous voulons croire que des personnes ont expérimenté ce que la Bible appelle la nouvelle naissance, c'est-à-dire une vie nouvelle qui démarre. D'autres ont été renouvelés dans leur marche chrétienne, et on veut aussi bénir Dieu quand il y a des naissances d'enfants. Alors on va le faire avec un cantique qu'on va pouvoir écouter et un thème que les parents ont choisi et qui, j'espère, vous bénira autant que ça bénit la famille qu'on salue, qu'on accueille. Soyez toutes et tous les bienvenus. On est très heureux de vous accueillir à l'EPI. Et au bout d'un moment, je demanderai aux parents et à Naël surtout de bien vouloir venir. Naël marche pas encore, donc c'est sa maman et son papa qui vont l'emmener jusqu'à l'ici. Peut-être se lever ensemble, l'église. On va vraiment faire une présentation d'enfants. On va bénir les enfants. On aime les enfants. Si vous connaissez le chant, vous pouvez le chanter aussi, comme ça. Je vais inviter Jacques à venir aussi. La bonté de Dieu. On peut faire un fondu, s'il vous plaît, l'équipe. Merci. Sympa. Daviane et Alexandre, on est très heureux de vous accueillir avec Naël. Il a l'air... il est dans le repos, il est bien, il est à la maison. Ah, on l'a réveillé. Très heureux de vous accueillir. Je vais passer le micro à Jacques pour vous bénir. On ne baptise pas les enfants à l'EPI. On prie pour eux, on prie pour les familles. On prie pour tous les foyers, solo, famille. On veut vraiment être une église qui bénit. Et on en profite vraiment aussi pour exercer le ministère au travers de cela. Donc, Jacques.
Voilà, que son nom soit béni. Toujours une grâce de présenter les enfants, surtout quand on a accompagné les parents durant le parcours baptême. Voilà, donc ils ont compris maintenant aussi qu'il faut donner gloire à Dieu et envie vraiment bénir le Seigneur et aussi les bénir. Je crois qu'il n'y a pas, meilleure bénédiction, sans parler, que celle que Dieu avait demandé à Aaron et à ses fils de proclamer sur le peuple d'Israël. C'est un peu cela aussi qu'on va le faire, non seulement sur Naël, mais aussi sur les parents. Parce que l'Église, c'est nous, mais la première Église, c'est le Père et la mère. Et Aaron avait dit ceci sur les enfants d'Israël, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il fasse luire sa lumière sur toi. C'est ainsi qu'ils ont béni les enfants d'Israël. C'est ainsi qu'on veut bénir Anaël, c'est ainsi qu'on veut aussi bénir ce couple que vous représentez, afin que Dieu puisse vous donner aussi toute la sagesse, l'intelligence aussi, pour continuer votre marche avec lui, mais aussi pour lui transmettre tout ce dont il a besoin, pour qu'un jour aussi il puisse avoir la grâce de connaître le Seigneur. Nous te bénissons pour ta présence en ce matin, Seigneur. Nous te louons parce que tu es ce Dieu merveilleux. À toi soit toute la gloire pour ce que tu as fait, Seigneur mon Dieu, dans la vie, Seigneur mon Dieu, de ce couple. Nous voulons ce matin bénir, Seigneur mon Dieu, Anaël. Nous te le présentons comme Jésus a été présenté au temple. Nous prions que toute ta bénédiction et ta grâce l'accompagnent. Nous prions qu'il soit béni, Seigneur mon Dieu, dans tous les domaines de sa vie. Nous prions qu'il soit gardé, protégé, Seigneur mon Dieu, dans sa santé. Et nous prions également, Seigneur mon Dieu, pour ses parents, afin qu'il leur soit accordé sagesse, intelligence, pour pouvoir, Seigneur, l'éduquer, Seigneur, selon le plan que tu as prévu pour le couple. Nous les bénissons, ton nom, et nous te disons merci, Seigneur, mon Dieu, que ta grâce les accompagne, ta bénédiction soit sur eux, que vraiment ta face soit tournée vers eux, et qu'ils, Seigneur, mon Dieu, grandissent encore avec toi. À toi soit l'honneur, la reconnaissance, la louange de ton nom, Seigneur. Et que ta grâce les accompagne s'il est dans ton projet encore, Seigneur mon Dieu, qu'ils grandissent et qu'ils croissent encore. Et bien que ta volonté soit faite. Amen. Amen.
Merci. C'est toujours bon d'être béni par un patriarche. Hein? Un grand-père, exactement. Si quelque part cette célébration vous a interpellé, on est très heureux d'offrir aussi aux personnes qui viennent pour les premières fois ou les toutes premières fois ou les personnes de l'église un service qui s'appelle Écoute et prière. Dans un instant, nous allons clôturer cette célébration, mais dans l'allée qui est à ma gauche, il y a des personnes avec un badge Écoute et prière qui seront là pour continuer à exercer le ministère, continuer à prier pour vous, que Dieu continue son œuvre, que l'Esprit de Dieu continue à vous bénir et vous accompagner, même vous orienter vers les prochaines étapes. Donc l'équipe Écoute et prière se tiendra dans ma gauche. Je vais demander donc à l'aller bien fourni ici, de bien vouloir dans un instant libérer cet espace pour que les personnes qui ont besoin de prière puissent bénéficier de la prière. Et j'invite d'ailleurs toutes les personnes à rejoindre aussi le hall. N'oubliez pas toutes les informations, espace vie d'église, célébration en commun, c'est proactif, apéro start, vous avez tout à l'espace vie d'église. Que Dieu vous bénisse, bon retour à chacun, on se retrouve très vite, que ce soit dans les maisons, dans les petits groupes ou dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.